France Inter.
Depuis la nuit de Noël, des centaines de Français se posent la même question.
Plus de 50 étoiles ont traversé le ciel en France. Qui a une idée de ce que c'est ?
Sur la toile, plusieurs pistes sont évoquées. S'agit-il d'un convoi d'ovnis extraterrestres ou bien du traîneau du Père Noël ? En réalité, le responsable de ce cortège spatial s'appelle Elon Musk.
C'était le 26 décembre 2019 sur France 3 Région. Les Français découvrent, non, pas le traîneau du Père Noël, mais la constellation Starlink d'Elon Musk, des petits satellites de télécom lancés sur une orbite basse, c'est la nouveauté. 6 ans plus tard, on en comptait 8500 au-dessus de nos têtes. Les concurrents, la constellation OneWeb, la constellation Kuiper, sont beaucoup moins nombreux alors que le marché a explosé. Qui refuserait une solution facile, une solution accessible financièrement pour avoir Internet dans des zones blanches? Plus de 40 000 lancements de ces petits satellites à prévoir dans la prochaine décennie. C'est aussi parce que la demande de télécommunications pour la sécurité et la défense va croître. C'est là où le fait que l'acteur dominant appartienne à un milliardaire imprévisible pose problème. Les Européens en ont eu la confirmation en mars dernier, lorsque Musk a écrit sur X « Mon système Starlink est la colonne vertébrale de l'armée ukrainienne. Toute leur ligne de front s'effondrerait si je l'éteignais. » Retrouver de la souveraineté dans un monde troublé et dans l'espace, c'est donc notre priorité. Voilà la raison de se réjouir de l'alliance annoncée avant-hier de 3 poids lourds industriels européens, Airbus, Thales et Leonardo. Si Bruxelles donne son feu vert, ce nouveau champion des satellites sera opérationnel en 2027. Son siège sera à Toulouse. Alors pour l'instant, on ne connaît que le nom de code du projet, Bromo. C'est le nom d'un volcan indonésien toujours actif et ça n'a toujours rien à voir avec le Père Noël.
On n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd sur France Inter.
Toute l'équipe vous souhaite la bienvenue. Valentin Pérez, Céline Ilan, Cécile Perrin, Achille Aquenin qui est au mix et Laurent Baudouin à la console. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h pour discuter de l'économie comme on la vit. Avec ce matin des questions sur le tour de vis prévu dans le budget de la Sécurité sociale et la suspension de la réforme des retraites. Comment sauver notre modèle social ? Éric Chenu, le président de la Mutualité française, est notre invité. Au sujet de nos médicaments, est-ce que la France va pouvoir résister encore longtemps aux demandes de hausse de tarifs des laboratoires pharmaceutiques ? Ça va peut-être vous surprendre, mais Donald Trump est en train de changer la donne. Vous entendrez le reportage de Jian Bergawi. C'est le dernier samedi du mois, notre rendez-vous pour se mettre à la page des sorties littéraires au rayon éco. Bonjour Christian Chavagneux.
Bonjour Alexandra, bonjour à toutes et à tous.
Vous nous apportez 3 fiches de lecture, des ouvrages que vous nous recommandez chaudement.
Oui, 2 livres sur la fiscalité et 1 sur l'immigration.
On se retrouve, Christian, ça sera juste avant 10h, je cherchais, mais c'est un peu toujours juste avant 10h. Tout de suite, le débat avec ce matin, la journaliste Béatrice Mathieu de L'Express. Salut Béatrice.
Bonjour Alexandra, bonjour à tous.
Et l'économiste de l'OFCE, Éric Heyer. Hello Éric.
Bonjour Alexandra, bonjour à tous.
L'OFCE, c'est le Centre de Recherche en Économie de Sciences Po. Vous êtes le directeur du département Analyse et Prévision. Évidemment, on a eu la décision de l'agence de notation Moody's hier sur la France. Pas de dégradation, mais une perspective, comme on dit, abaissée, de stable à négatif. Ça veut dire quoi, finalement ?
Bon, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on s'en fiche un peu, si je peux me permettre. C'est-à-dire que globalement, vous voyez, ils nous notent 17 sur 20. Donc qu'est-ce que ça veut dire, 17 sur 20 ?
C'est encore 17 sur 20, même avec perspective négative ?
Oui, c'est ouais. Encore. Bon, allez, même si c'était 16,5, vous voyez, on reste. Et c'est-à-dire qu'ils nous disent, ils disent en un mot que notre dette est de haute qualité. Vous voyez, c'est quand même très étonnant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, on considère qu'on est en faillite, mais les agences de notation nous notent 17 ou 16 sur 20. Pourquoi on s'en moque un peu, puisque globalement, vous voyez, ils nous notent 17 sur 20, alors que l'Italie dont on va parler est plutôt à 12 sur 20, et pourtant, on a les mêmes taux d'intérêt. Vous voyez que l'Espagne, qui est moins bien notée que nous, a des taux d'intérêt plus bas, donc bon, quelque part, les agences sont après le marché, c'est-à-dire que globalement, allez, c'est important de le regarder, mais c'est un jugement qui n'a pas beaucoup de valeur.
Alors, cependant, l'Italie, elle a eu sa note relevée, elle est à 12, vous l'avez dit, oui. Relevée par Fitch, c'était le mois dernier, mais vous avez dit ça aussi, elle est toujours moins bonne que celle celle de la France. Et pourtant, on entend cette petite musique du miracle italien, de la crédibilité retrouvée pour Rome. Cette semaine, cela fait 3 ans que Giorgia Meloni est au pouvoir. La première de sa famille politique, issue du fascisme, a dirigé le pays depuis la chute de Mussolini, donc. Est-ce que Giorgia Meloni a redressé l'économie de son pays? La réponse est importante. Autre question, est-ce que nous devons faire de la botte un modèle? Certains membres du personnel politique français sont tentés. Nous, on en fait le débat.
Aujourd'hui, je suis fière que l'Italie soit perçue ainsi au niveau international. Qu'elle ne soit plus considérée comme le grand malade de l'Europe, mais plutôt comme un modèle de stabilité et de sérieux gouvernemental.
Giorgia Meloni, présidente du Conseil italien.
À tel point que les investisseurs internationaux nous considèrent comme une nation sûre, au point que les taux d'intérêt que nous payons sur notre dette sont désormais alignés sur ceux pratiqués dans un pays comme la France.
L'Italie va mieux.
Dorothée Rouzet, chef économiste de la Direction générale du Trésor.
Parce que l'Italie baisse son déficit, c'était plus de 7% en 2023, c'était 3,4% l'année dernière, ce qui fait qu'ils seront probablement à moins de 3% l'année prochaine. Ils dégagent un excédent primaire sur leur budget, c'est le seul pays du G7 qui le fait. Et tant mieux pour l'Italie si elle va mieux. Enfin, une grosse partie de la réduction de cet écart, c'est que la perception de l'Italie par le marché, elle s'est améliorée.
La politique que mène Giorgia Meloni est un modèle à mes yeux pour la droite.
Laurent Wauquiez, député, président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale.
Je vois ce qu'elle a fait sur l'immigration illégale, qu'elle a fait baisser de 65%. Je vois ce qu'elle fait en même temps sur le redressement de l'économie, où elle a diminué le déficit budgétaire, ils ont diminué leur taux de chômage, et surtout, ils se sont attaqués à l'assistanat. Elle, au moins, il n'y a pas seulement des paroles, il y a des résultats.
Cette croissance économique dont vous parlez, elle s'accompagne d'une augmentation très importante de la pauvreté, voire de l'exclusion totale de 5 millions d'Italiens.
Ludmila Akone, historienne, spécialiste de l'Italie contemporaine.
D'autre part, les conditions de travail sont extrêmement aggravées. Il y a eu 6,7% d'accidents mortels sur le travail en plus en Italie dans les 2 dernières années.
En Italie, Madame Meloni a fait une campagne incroyablement dure sur l'immigration.
Édouard Philippe, ancien Premier ministre, candidat à l'élection présidentielle de 2027.
Qu'est-ce qu'elle a fait une fois qu'elle a été au pouvoir? Elle a constaté la contraction de sa population active. Elle a donc dit « il faut beaucoup mieux maîtriser l'immigration ». Mais certainement pas dit qu'il fallait une immigration zéro. Elle a régularisé 500 000 étrangers. 1,5 million, elle les a régularisés. Pourquoi? Pas parce qu'elle considère que c'est une chance ou un problème, parce qu'elle en avait besoin.
Béatrice Mathieu, je me tourne vers vous, on va faire la photo comme d'habitude, pour démarrer et que tout le monde ait le même paysage sous les yeux. Est-ce qu'en 2025, l'Italie va mieux? Est-ce que c'est mieux qu'avant? Est-ce que c'est mieux que nous? Comment est-ce que vous regardez la photo?
Alors, si on s'occupe des finances publiques, ce qui nous intéresse beaucoup en ce moment, alors on regarde le déficit, hein, déficit public. On prend 2021-2025. En 2021, l'Italie avait un déficit, on sortait du Covid, de 8,9% du PIB. Ça, c'est les données d'Eurostat. En 2024, on est tombé à 3,4% et cette année, on devrait être à 3%. Les dépenses publiques, là aussi, ça nous intéresse beaucoup parce qu'on en parle beaucoup en France. On avait un ratio de dépenses publiques de 56% en 2021. On est tombé en 2024...
À peu près comme nous, quoi, hein, ouais, aujourd'hui.
Ouais. On est tombé à 50,4. Il y a eu une baisse de 4 points de PIB des dépenses publiques. La dette publique, 145% du PIB en 2021. 2024, 134,9%. Ça reste... pour le coup, sur la question du ratio d'endettement, au-dessus,
largement
au-dessus de nous, mais nous, ça a baissé. Alors, autre point qui a été mentionné, on a entendu, le solde primaire. Alors, c'est quoi le solde primaire? C'est le déficit, en fait, quand on a payé ce qui reste, en fait, à payer aux créanciers, en fait. Et ça, en 2025, ce solde primaire est redevenu positif, hein, de près de 0,9% du PIB, lorsque celui de la France est très largement déficitaire, de près de 4 points de PIB. Alors, trois autres petits
chiffres
qui ne sont pas...
C'est pas une photo, c'est un tableau, en fait.
Voilà, qui ne sont pas sur les finances publiques, mais le PIB par habitant. C'est quand même important, la richesse par habitant. Eh bien, il y a eu un mouvement contradictoire, inverse à celui de la France, avec le PIB par habitant italien qui a progressé, alors que celui de la France a diminué. Et maintenant, il est grosso modo au niveau de celui de la France. Le taux de chômage, il a beaucoup régressé. Il est autour de 6%.
En dessous de nous, ok.
En dessous de nous. Et l'Italie, eh bien, est entrée dans le top 4 des exportateurs mondiaux, derrière la Chine, les États-Unis et l'Allemagne, avec un excellent excédent commercial qui tourne autour de 30 milliards d'euros, quand le nôtre est largement dans le rouge. Ouais. Alors on pourrait dire, effectivement, et c'est vrai, et on y reviendra, que le taux de pauvreté a beaucoup augmenté.
On va y aller, attendez, prenez pas tous les chiffres d'un seul coup, parce que les auditeurs ne seront plus là. Éric Ayer, comment est-ce que vous la regardez, cette faute? On a l'impression quand même d'un ciel qui s'est beaucoup éclairci sur l'Italie.
Si on regarde dans le côté positif, il faut rappeler peut-être que, voyez, l'Italie, c'est le I de pigs. Vous voyez, le PIG, c'était quand même l'acronyme un peu dédaigneux.
Ah oui, ça veut dire cochon en anglais.
Ça veut dire cochon en anglais, qu'on avait donné à des pays qui étaient considérés comme les élèves malades de l'Europe. Donc c'est le Portugal, l'Italie, la Grèce et le S d'Espagne, de Spain. D'accord ? Et on pouvait même des fois rajouter un autre I, c'était l'Irlande. Donc on voit que là, c'est un peu finalement les cochons contre-attaque. Hein. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, ils sont tous au-dessus de l'Allemagne et au-dessus de tous ces pays-là. Bon, donc ils partaient vraiment de très très loin. Et je pense que dans la photographie de Béatrice, on peut rajouter la stabilité. C'est-à-dire que globalement, vous voyez, les 14 ans, les 14 années avant Meloni, la durée de vie d'un gouvernement, c'était 6 trimestres. C'était pas beaucoup, vous voyez, c'était un an et demi. Vous voyez, et là, ça fait 12 trimestres qu'elle est là. Donc, elle a fait deux fois mieux et elle va rester là. Alors qu'à l'époque, nous, on était à peu près à 11 trimestres et aujourd'hui, depuis que Meloni est là, on est à 6 gouvernements en France. Donc, on a 2 trimestres. Donc, vous voyez, il y a une instabilité très forte chez nous, alors que chez eux, ils sont en train de le régler. Et vous voyez, en Espagne, il n'y a pas de budget. En Allemagne, il y a des problèmes de coalition. Donc, effectivement, alors que c'était un endroit où il n'y avait pas de stabilité, c'est devient l'endroit le plus stable d'un point de vue politique. Et ça, c'est peut-être à mettre à son crédit, parce qu'après, on reviendra. C'est peut-être le seul point positif. Mmh. C'est qu'elle a réussi, d'accord, à faire des choses assez incroyables avec une coalition qui va de 5 étoiles jusqu'à la Ligue du Nord.
Il y a peut-être un message pour nous, là.
Exactement. Oui. C'est-à-dire qu'elle arrivait et même à revenir sur ce qu'elle disait pendant sa campagne. Donc, elle avait un discours et elle fait exactement l'inverse de son discours. C'est-à-dire qu'elle était anti-Europe et là, elle est pro-Europe. Elle était finalement pour... Il va falloir qu'on reprenne la dépense publique et il va falloir qu'on fasse des projets d'investissement audacieux. Elle fait exactement l'inverse. Donc, vous voyez, et globalement, elle arrive aussi à revenir sur certaines décisions qui étaient très mauvaises et qui étaient prises par le mouvement 5 étoiles, c'est comme
de
le
Beppe Grillo, super, oui.
comme le super bonus. Vous voyez pourquoi il y a eu beaucoup plus de croissance? C'est parce que ils ont mis un super bonus en place, un super bonus. Vous voyez, c'est 110%, d'accord, de crédit d'impôt si vous faites de la rénovation de votre bâtiment. Et donc là, ça devait être normalement 35 milliards injectés dans l'économie. On en est à 200 milliards. Mais vous voyez, ben là, vous donnez de l'argent. Donc effectivement, la croissance est repartie. Le problème, c'est qu'elle a eu le courage de l'annuler et de sa coalition.
Mesure extrêmement populaire, oui.
Mais globalement, ça veut dire que les finances publiques, d'un coup, se rétablissent. Mais la croissance économique, depuis qu'elle est arrivée, est beaucoup plus faible qu'avant, d'accord ? Donc le miracle, ça a été juste avant. D'accord ? Entre 2020 et 2022, mais depuis, il n'y a plus de croissance économique.
Alors, Béatrice Mathieu, on revient sur comment ça, c'est intéressant, comment en est-on là ? Est-ce que, si l'Italie a une photo plus lumineuse, merci qui ? Alors, Éric nous dit, il y a un peu de merci Meloni, est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce qu'il y a du merci Meloni ? Est-ce que ça date d'avant ? Dites-nous merci.
Alors, il y a du merci Meloni, mais il y a aussi merci ceux qui étaient à sa place avant. Merci Mario Monti.
2011, un gouvernement
2012,
technique.
Gouvernement technique avec des réformes extrêmement dures. Il faut voir en fait la potion d'austérité qu'il a mis en place à cette époque-là. On parlait à l'époque de baisse de dépenses de 63 milliards d'euros en 2012. C'était considérable. Une réforme des retraites qui a été pilotée en 20 jours. En 2012, où en 20 jours, eh bien, on reporte l'âge de départ de retraite de 65 à 67 ans. On restreint les possibilités de retraite, de départ en retraite anticipée. Donc, il y a eu des réformes extrêmement dures et en même temps une libéralisation très forte du marché du travail. Donc, les réformes Monti ont lancé le train. Ça, et finalement, les premiers ministres successifs ont, d'une certaine façon, un peu suivi la libéralisation du marché du travail avec le Job Act de Matteo Renzi est aussi très important. Alors, ils ont fait des erreurs et vous avez parlé du super bonus qui était une sorte de délire. Elle a stoppé ça. Ce qu'on peut noter quand même et à mettre à son crédit aussi, c'est qu'elle a continuer finalement une trajectoire qui avait été lancée. Et il y a une trajectoire de réduction, d'assainissement dans la durée, en fait, des finances publiques. Et c'est aussi ça que regardent les marchés financiers et récompensent aujourd'hui les marchés financiers, c'est cette trajectoire italienne.
Mais alors, si je vous suis, donc, elle fait des choses, elle change son programme, elle est pragmatique, elle a une coalition, elle en tient compte. Elle revient sur le super bonus. Mais ce que dit Béatrice, Eric, c'est qu'il y avait toute une politique d'austérité, visiblement très dure. La réforme Fornero, là, sur les retraites, Fornero. C'était très dur. Et est-ce que c'est ça? Est-ce que pour nous, ça, c'est un modèle? C'est-à-dire, si on veut assainir les finances publiques, il faut faire ces grosses coupes dans les dépenses.
Il faut se souvenir, encore une fois, ils avaient des taux d'intérêt à quasiment 7%. Mmh. D'accord? Ils avaient un spread avec l'Allemagne de 5,75.
Et donc, nous, aujourd'hui, on est
à 0,8.
Oui.
Donc, vous voyez, c'est ridicule.
Et notre taux d'intérêt, c'est
3,4. D'accord? Donc, on n'est pas du tout dans cette situation-là. Et donc, il faut rappeler juste que c'est les deux banquiers centraux de l'époque, enfin, c'était le sortant Trichet et le nouveau Mario Draghi qui impose cette cure, c'est-à-dire qui envoie une lettre qui devait rester secrète mais qui est sortie après à Berlusconi qui était à la chef du gouvernement pour dire il va falloir, si vous voulez qu'on vous aide, mettre en place cette politique d'austérité. Il n'arrive pas à le faire, on met Mario Monti pour le faire, Fornero qui fait effectivement cette politique qui est en pleurs lorsqu'elle propose cette, il faut se souvenir de cette image, elle est en pleurs et qui avait en opposition Meloni qui disait attention, il ne faut pas être à la botte de Bruxelles, il va falloir reprendre nos dépenses publiques. Donc elle était en opposition finalement à cette politique-là.
Mais est-ce qu'elle ne bénéficie pas de cette cure d'austérité?
Alors elle bénéficie entre guillemets parce que dans toutes les statistiques données par Béatrice, il y en a une qui fait polémique et qui s'est avérée fausse, c'est le PIB par tête. Le PIB par tête est en dessous en fait. Il y a eu effectivement cette
moi,
donnée.
Moi j'ai regardé les données d'Eurostat hier soir.
Alors, Jean-Luc Tavernier le dirait beaucoup mieux que moi, mais non, effectivement.
C'est l'ancien patron de l'INSEE.
Et donc effectivement, là aujourd'hui, la croissance économique, certes, ils ont retrouvé la crédibilité, les taux d'intérêt, maintenant les spreads sont à notre niveau, à 0,8 et plus à 5,75, mais à quel prix? Vous voyez, le PIB en 2019, d'accord, était à moins 5% par rapport à 2008. Ils n'avaient pas retrouvé en 2019 leur niveau de 2008 quand nous étions à plus 12 par rapport à 2008. Donc, c'est une cure d'austérité qui a fait, en fait, énormément de dégâts. Alors, pourquoi le PIB par tête s'est pas autant effondré? C'est qu'il y a un choc démographique. Ils perdent de la population. Donc, mais vous avez une récession gigantesque. Le taux de chômage était monté jusqu'à 12-13. Donc, ok, cure d'austérité. Mais le rebond, c'est pas du tout cela. Le rebond, c'est que en 2020, quand on a su qu'il y avait la crise sanitaire qui arrivait, ils ne pouvaient pas aller sur les marchés financiers, ils étaient cuits. Qu'est-ce qui s'est passé? Un énorme plan de relance européen, 650 milliards, dont 350 sur les subventions, 300 de prêts, et c'est l'Italie qui profite le plus de ce plan avec 194 milliards, d'accord? Et ces 194, ça fait 9 points de PIB d'aide européen. Donc vous voyez, c'est peut-être ça la solution, c'est que vous faites effectivement de l'austérité chez vous, mais vous êtes aidé par Bruxelles, et donc ça ne rentre pas dans les déficits, la subvention n'entre pas, c'est 3,5 points qui n'entrent pas dans le déficit et qui vous permet de faire de la relance en même temps que l'austérité chez vous, et donc finalement ça vous fait un peu plus de croissance.
Alors c'est vrai que le plan de relance européen a bénéficié beaucoup à l'Italie, 194 milliards, mais quand on regarde la réalité des montants qui ont été décaissés, parce que c'était pas un chèque, ils ont pas, la commission a pas rasé gratis en disant on vous donne 194 et vous faites ce que vous voulez. En réalité, ce plan se termine en juin prochain, et en juin de cette année, donc il y a 3 mois, les 2/3 des sommes n'avaient pas été décaissées parce qu'il faut présenter à juste titre des projets, c'est soumis à des réformes, etc. Et donc l'argent n'est pas complètement arrivé et n'a pas inondé.
Il y a quand même 6 points de PIB. Non, du coup, vous avez 6 points de PIB intégrés.
Ça n'a pas inondé l'économie.
6 points de PIB, Béatrice. 6 points de PIB quand nous, c'était 1 point de PIB. Donc c'est quand même 5 points d'écart.
Et par ailleurs.
Le mot de la fin, Béatrice.
Non, mais par ailleurs, de dire effectivement la situation italienne était bien plus grave que la situation française à l'époque en 2012. Donc on n'a pas besoin. C'est justement parce qu'on n'a pas envie d'être dans la situation italienne qu'il faut quand même faire des petits efforts parce qu'on n'a pas envie de se retrouver avec des baisses de dépenses aussi dramatiques.
Si vous écoutez Francesco Saraceno qui est de la Luis, il dit il n'y a aucun plan structurel. Qui est un économiste. Il n'y a aucun plan structurel. Après le plan de relance, la croissance économique va retomber à zéro. Pas de productivité, pas de démographie.
Mais ils ont assaini leur compte, Eric.
Et ils ont assaini leur compte, c'est vrai.
Ok. Eric Heyer et Béatrice Mathieu, ils ont fait le débat d'On n'arrête pas l'écho.
Real Decreto Ley para la ampliación
de derechos de los trabajadores.
Unemployment and lower job
creation.
Et c'est l'écho en VO ce matin. Nous partons, non pas en Italie, aux États-Unis.
I can't tell you how many letters Laura has, and I know you my wife.
When you go somewhere as an unrestricted free agent, you a big right? There's a lot of expectations.
Do y'all remember the floppy disk? Yeah. That's me. I don't hard something a floppy disk.
Mais de quoi s'agit-il? Alors, de télévision et de l'émission de Jimmy Kimmel, qui vient de créer une nouvelle séquence humoristique dans son Late Show, avec des bips, hein, vous avez entendu, pour se moquer de la censure. Je rembobine pour ceux qui auraient oublié. Le mois dernier, Kimmel, l'animateur star de ABC, a été brutalement déprogrammé, censuré. Il avait accusé les Trumpistes d'exploiter politiquement l'assassinat de l'influenceur Charlie Kirk. Mais très vite, Jimmy Kimmel a été reprogrammé. Bonjour Loïc Loury.
Bonjour Alexandra.
Vous êtes correspondant de France Inter aux États-Unis. Alors ABC, c'est une chaîne du groupe Disney. Sans doute y avait-il une raison économique, c'est pour ça qu'on s'y intéresse, pour reprogrammer Jimmy Kimmel. Loïc, les abonnés en fait ont réagi vite et fort à son éviction, et on le sait parce que cette semaine on a eu les chiffres.
Oui, 3 millions d'abonnés en moins en septembre pour Disney+, et 4 environ pour Hulu, une plateforme associée. C'est deux fois plus que les mois précédents, et le facteur Kimmel a incontestablement joué un rôle dans cette saignée, qui explique sans doute le retour en grâce aussi rapide de l'animateur. Disney craignait de fâcher les conservateurs après les propos de sa star sur Charlie Kirk. Ce sont finalement les progressistes qui ont déserté la plateforme de streaming du géant. Impossible évidemment d'échapper à ces cultural wars lorsque l'on représente l'alpha et l'oméga de la culture de masse américaine. Mais d'autres entreprises ont elles aussi été prises dans la tempête. La bière Bud Light en 2023, qui avait vu ses ventes s'effondrer après une campagne de publicité impliquant une personnalité transgenre. Et tout récemment, c'est Target, avec ses près de 2000 magasins aux États-Unis, qui avait été visé par des appels au boycott après avoir réduit ses efforts d'inclusion. Difficile malgré tout d'estimer le coût économique de ces guerres culturelles, dont l'impact est surtout à chercher dans les divisions toujours plus béantes de la société américaine.
Loïc Loury avec nous de New York. (Rire) 9h35 sur France Inter. Dans moins de 10 minutes, l'invité du Mag Éco, c'est le président de la Mutualité française, Éric Chenu. Question sur la Sécu qui fête ses 80 ans. Comment sauver notre modèle de protection sociale? Le projet de budget de la Sécurité sociale arrive lundi en commission à l'Assemblée. Il porte la suspension de la réforme des retraites, mais aussi le gel des pensions, le reste à charge qui va augmenter sur les consultations et les médicaments. À ce sujet, quel est le risque de devoir bientôt payer plus cher à la pharmacie? Il y a l'impact des franchises, il y a aussi, ça va peut-être vous surprendre, mais c'est la réalité, la pression que met Donald Trump sur les laboratoires et qui pourrait avoir des répercussions jusque chez nous. Alors, gros plan ce matin sur le prix de nos médicaments, c'est le reportage, il est signé Jihan Bergawi. Elle nous emmène dans un des 271 sites de production pharmaceutique de France. Nous voici à l'usine Benta, à Saint-Genis-Laval, dans la métropole de Lyon. On commence par faire le tour des lieux.
Alors là, on va partir en visite et on va voir les différents bâtiments de production, parce qu'on fait plusieurs formes pharmaceutiques sur le site. On a des formes sèches, des comprimés, des gélules et de la poudre en flacon. On va avoir des formes semi-solides, des crèmes, des gels en tubes. Et on a une dernière zone qui est en cours de construction, qui est un atelier de médicaments stériles, médicaments injectables. On va aller voir à l'intérieur. Damien Parisien, directeur général exécutif de Benta Lyon. Donc nous avons deux activités. Une première activité qui est de fabriquer pour d'autres laboratoires leurs produits pharmaceutiques. Et la deuxième activité, c'est que nous sommes exploitants et fabricants de nos propres génériques à destination du marché français.
La sous-traitance, ça représente 80% environ de votre chiffre d'affaires?
Aujourd'hui, on assure même un peu plus que ça. Notre premier créneau, c'est la sous-traitance. Demain, de plus en plus, ce sera notre partie portefeuille générique. Aujourd'hui, on produit une petite dizaine de médicaments Benta avec un objectif de 80 produits à horizon 5 ans. On a des velléités de faire quelques pourcents du marché français. Hein. On n'a pas un objectif d'être numéro 1 aujourd'hui. Par contre, notre objectif très clair, c'est de pouvoir être sur des marchés ou sur des molécules qui, à un moment donné, ont eu des tensions d'approvisionnement en France et pour lesquelles des usines en France ne fabriquent pas. Et notre objectif, c'est clairement aller sur cette souveraineté sanitaire française, voire européenne.
On monte jusqu'au vestiaire pour pouvoir s'habiller, maintenant rentrer en zone pharmaceutique pour le conditionnement. Première étape, on va se laver les mains.
Donc là, on va mettre une charlotte, on va mettre une blouse. Merci.
Et donc là, on va se diriger vers une des unités de conditionnement. Là, c'est un de nos produits génériques, de l'ésoméprazole.
Médicament pour les douleurs gastriques.
C'est ça, exactement. Donc là, ici, on voit l'introduction de chaque gélule à l'intérieur de chacune des alvéoles.
Ça va très vite.
Exactement, ce sont des lignes de cadence qui permettent de pouvoir faire des millions de comprimés par jour. Là, par exemple, sur cette présentation-là, on est sur 5000 boîtes qui vont être réalisées en quelques heures aujourd'hui. Donc là, pour ce produit à l'officine, vendu, c'est 1,25€. Le prix fabricant hors taxe est à 0,84€.
Dans quelques jours, le projet de loi de financement de la sécurité sociale arrivera en discussion à l'Assemblée nationale. Les députés auront notamment à trancher la question de l'augmentation des franchises. À ce stade, l'exécutif envisage un doublement. Ce serait désormais 2€ par boîte de médicaments avec un plafond annuel de 100€. Le gouvernement prévoit aussi un changement de système. Jusqu'ici, la franchise était indolore pour les patients. Elle était prélevée directement par la sécurité sociale. Désormais, il faudra sortir son porte-monnaie et s'en acquitter directement au comptoir, comme dans l'officine de Mathieu Saulnier. Il est pharmacien à Nanterre depuis 10 ans.
Bonjour.
On n'est pas collecteur des impôts. C'est pas à nous de collecter. Nous, on est dans une relation de soignant. On n'est pas dans une relation comptable ou assurantielle avec les patients. Donc c'est une fausse bonne idée.
Si on fait la simulation d'une boîte de générique d'ésoméprazole 20 mg pour une semaine, quel serait le reste à charge pour un patient?
Alors, on va aller voir ça tout de suite. Je vais simuler une ordonnance. Donc je place le produit. Ah oui, le produit vient de baisser. On a perdu 80 centimes sur la boîte. Donc aujourd'hui, le prix facial de l'ésoméprazole par 7, c'est 1,25€, auquel on rajoute les 1,02€ de notre honoraire de dispensation à la boîte et les 61 centimes d'honoraire à l'ordonnance. Ça fait un total de 2,88€ pour l'ésoméprazole. Demain, avec une franchise à 2€, le patient sera remboursé de 88 centimes par sa complémentaire, quand on a une mutuelle.
Bonjour.
Vous avez la carte vitale? Donc voilà, il y a les deux boîtes de médicaments. Donc vous savez que la franchise, enfin il y a un projet pour faire augmenter la franchise, la passer de 1€ à 2€ par boîte.
Pourquoi pas, hein, un peu plus, un peu moins, on n'est plus à ça près. Hein.
Est-ce que vous pensez que ça peut vous faire renoncer à certaines boîtes de médicaments?
Bah ça dépend lesquelles, mais... Peut-être, oui, ça pourrait avoir des conséquences, oui. Parce que c'est quand même un budget. Hein. Enfin, quand on va prendre des médicaments, c'est qu'on est malade.
Bon, allez, bon courage.
Dans le budget 2026, l'augmentation des franchises n'est pas la seule mesure qui pourrait impacter le prix final des médicaments. En parallèle, le gouvernement continue de réclamer des efforts aux groupes pharmaceutiques. L'an prochain, il demande 1,4 milliard d'euros de baisse de tarifs, des mesures fiscales qui passent mal auprès des industriels.
Thierry Hulot, je préside le syndicat d'industrie pharmaceutique, le LEM, les entreprises du médicament, et je suis aussi le PDG du groupe allemand Merck en France.
Pour Thierry Hulot, que je retrouve au siège de son entreprise à Lyon, le gouvernement doit revoir sa copie.
Il faudrait un moratoire sur les prix. Il y a certains médicaments, notamment des médicaments matures, où le prix est tellement bas qu'il n'y a plus de rentabilité industrielle. Et donc à la fin, ils vont disparaître si on ne fait rien. Et ça, on l'a déjà vu. Le problème, c'est que si on ne consacre pas une part plus importante au financement des innovations, pour être comparable aux autres prix européens, pour être dans la compétition et l'attractivité vis-à-vis des États-Unis, les innovations n'arriveront pas. On a donc un choix à faire. Ce choix, il va falloir le financer. Mettons-nous tous autour de la table pour y réfléchir. Il y a urgence à agir. Et c'est pourquoi je demande au Premier ministre de mettre en place des états généraux du médicament sans tarder, de revoir immédiatement ce projet de loi de financement de la sécurité sociale qui envoie un signal catastrophique. On est en train de dire clairement à l'industrie pharmaceutique, vous n'êtes pas la bienvenue dans ce pays.
Et la géopolitique complexifie encore l'équation avec Donald Trump qui s'en mêle. Le président américain met la pression sur les industriels afin que les médicaments coûtent moins cher aux patients de son pays. Pour ne pas y perdre, les labos pourraient être tentés de remonter les tarifs de leurs produits en Europe et notamment en France. Une logique toute trumpienne que décrypte Nathalie Coutinet. Elle est économiste de la santé et enseignante chercheuse à l'Université Paris-Nord.
Il y a un constat qui est réel, fait par Donald Trump, c'est que les Américains achètent plus de médicaments aux Européens qu'ils n'en vendent. Donc ça, c'est un des éléments sur lequel s'appuie Donald Trump, qui est juste. Le deuxième, c'est qu'il considère que la recherche qui est beaucoup faite aux États-Unis, on peut dire majoritairement faite aux États-Unis, bénéficie au monde entier, et que cette recherche, elle est financée uniquement par les Américains. Et là-dessus, il s'appuie sur le fait que les médicaments sont beaucoup plus chers aux États-Unis. C'est 2,5 fois plus cher aux États-Unis que partout ailleurs dans le monde. Et donc, il dit ben, il faut que les Européens payent plus cher leurs médicaments pour financer la recherche. En fait, non, ça va faire des dividendes et des profits aux firmes pharmaceutiques et mettre à mal nos systèmes de santé.
Selon vous, en France, peut-on échapper à la hausse du prix des médicaments ?
Oui, c'est une volonté politique. On peut échapper. Ce qui manque aujourd'hui, c'est une politique européenne du médicament. Et ça, c'est le point noir. Donc, il est extrêmement urgent pour nous, pour la survie de notre sécurité sociale. Parce que quand on a des médicaments qui sont aujourd'hui à 100 000, 200 000, 300 000, 400 000 euros la dose, comment voulez-vous que notre système de sécurité sociale y résiste à ça ? Donc, il faut absolument qu'il y ait une agence européenne qui se saisisse de ces questions qui sont, d'un point de vue théorique en économie, de la souveraineté de l'État. La santé publique, ça fait partie des compétences de l'État. Alors, ce n'est pas forcément de produire des médicaments, mais de faire en sorte que les médicaments arrivent en qualité et en quantité suffisante pour les patients, ça, c'est du ressort de l'État.
Augmentation de la franchise, pression sur les labos, sommes-nous condamnés à payer plus cher nos médicaments ? C'était le reportage de Gian Bergaoui.
Merci beaucoup, bonne journée.
France Inter. On n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
La réflexion continue avec l'invité dont n'arrête pas l'écho. Bonjour et bienvenue Éric Chenu.
Bonjour.
Vous êtes le président de la Mutualité française qui regroupe environ 500 mutuelles. Ce sont notamment nos complémentaires santé. Alors, vous avez écouté le reportage avec nous. La question sur le médicament, est-ce que les Français peuvent échapper à des hausses de prix ?
Comme ça a été dit dans le reportage, tout l'enjeu c'est d'instaurer une stratégie européenne du médicament. À la fois pour la production, pour éviter certaines pénuries, mais aussi pour des politiques d'achat groupées qui permettront au système de protection sociale dans chacun des pays de rester soutenable.
Oui, mais on n'y est pas. Pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que l'Allemagne négocie de son côté, la France de son côté.
Aujourd'hui, malheureusement, chacun est dans son couloir de nage plutôt que de travailler ensemble. Or, on l'a vu pendant la crise sanitaire sur l'achat des vaccins, ça a été plutôt efficace. Ça nous a permis d'y avoir accès rapidement et à des tarifs plutôt compétitifs.
Mais alors du coup, qu'est-ce que vous dites quand, dans le reportage, on nous décrit qu'il y a les franchises qui vont arriver, on nous décrit qu'en plus Trump est en train de bouleverser la donne. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que le prix des médicaments augmente en France, où ils sont normalement plus bas, parce qu'il y a un gros rapport de force avec les autorités ?
Ils sont plutôt bien régulés dans notre pays, même si certaines molécules onéreuses coûtent très très cher, ça a été dit. Mmh. Mais il faut que l'Europe sorte de sa naïveté. Aujourd'hui, on est en guerre économique, on est en guerre stratégique et de souveraineté, et il faut qu'on relève le gant.
Alors dans le PLFSS, il y a ces franchises et cet argument de responsabilisation des patients pour les justifier. Vous en pensez quoi ?
Je ne vois pas en quoi sanctionner les patients, les personnes malades, est un élément de responsabilisation. On aura quadruplé les franchises sur les boîtes de médicaments en 2 ans. 2 euros par boîte de médicaments. C'est proprement incompréhensible. À l'heure où on fête les 80 ans de la Sécurité sociale, c'est une remise en cause de l'universalisme des prestations de la Sécu. On est à la fin d'Octobre rose. En quoi une femme qui a un cancer, qui est en affection de longue durée, elle va se retrouver avec les franchises sur les boîtes de médicaments, sur les transports, sur les participations forfaitaires pour les consultations médicales, avec un reste à charge d'ordre public de 250 euros. C'est totalement incompréhensible, je trouve ça choquant.
Mais la Sécu, elle a 80 ans, vous l'avez dit, c'était les ordonnances du 4 et du 19 octobre 1945, mais elle est donc à un moment crucial de son existence, elle a un déficit de 23 milliards, quand là, dans le PLFSS, il y a 7 milliards d'économies sur la santé, est-ce que ces efforts demandés aux patients ou aux labos, ils ne sont pas nécessaires ?
Mais soit une prescription, elle est utile et elle doit être faite et remboursée. Soit elle n'est pas utile, elle ne doit pas être faite. C'est pas parce qu'on va augmenter les restes à charge des patients qu'on va changer la qualité des prescriptions. Donc il faut qu'on travaille avec les prescripteurs, avec les médecins, les soignants, pour, à partir de référentiels validés par la Haute Autorité de Santé, par les sociétés savantes, faire des économies. C'est 15 à 20 milliards d'euros d'économies par an possibles, sans augmenter le reste à charge des gens, sans peser sur les cotisations. C'est en luttant de façon plus efficace contre la fraude. Il y a un PJL qui est déposé, un projet de loi, pardon, qui est déposé au Sénat et qui devrait être examiné d'ici la fin de l'année, on l'espère, auquel on a travaillé avec les pouvoirs publics, avec l'assurance maladie, avec la Commission nationale informatique et liberté, pour être plus efficace, parce que quand on est fraudé, l'assurance maladie l'est, et inversement. C'est plus de 4 milliards qu'on peut aller chercher. Voilà là quelques pistes très concrètes qu'on peut dès à présent engager et qui permettront de préserver les principes de solidarité, d'universalisme de la Sécu sans dégrader la qualité des prises en charge et sans mettre les soignants, les pharmaciens dans des situations intenables. Mmh. Aller demander aux patients de payer comme cela, quelque chose qu'ils ne comprendront pas.
Alors, dites-nous en plus sur ce projet de loi, parce que le Premier ministre, Sébastien Lecornu, en a parlé hier au Parlement de cette lutte contre la fraude. Quand on parle de la fraude sociale, et vous vous dites qu'on peut aller chercher 4 milliards, qui on cible ? Qu'est-ce que c'est que cette fraude ?
Cette fraude, c'est quelques patients qui fraudent, voilà, il faut le dire, d'assurés sociaux. C'est quelques professionnels de santé qui fraudent. C'est une minorité à chaque fois, mais qui se fait au détriment de l'intérêt général. Sur des actes facturés non réalisés, sur des fausses ordonnances, c'est des réseaux mafieux qui viennent de l'étranger. Et c'est là-dessus qu'il faut que l'on s'arme avec un dispositif législatif réglementaire plus puissant, parce que la nature des fraudes a changé. C'est le partage de données entre l'assurance maladie et les complémentaires santé, c'est remettre en cause le tiers payant dès qu'il y a une suspicion de fraude pour éviter de payer et de devoir ensuite recouvrer les sommes, ce qui est beaucoup plus difficile.
Il y a aussi dans ce PLFSS une mesure qui vous concerne particulièrement, vous les complémentaires santé, c'est une taxe exceptionnelle sur les cotisations encaissées, ça doit rapporter 1 milliard. Et en fait, c'est annoncé comme une contribution pour financer la suspension de la réforme des retraites. Voilà, ça serait votre contribution, Éric Chenu, à l'effort de recherche du compromis politique, là, avec les socialistes, pour avoir un budget. Est-ce que vous comprenez ?
Non, je crois qu'on est tombé dans le monde des Shadok, là. Franchement, demander à la santé, avec tous les besoins qu'il y a, de financer la retraite, ça n'a plus aucun sens. C'est de la tuyauterie voulue par les grandes administrations de notre pays. J'ai l'habitude de dire « la vie est belle sous Excel », c'est-à-dire qu'on prend d'un côté, on remet de l'autre. Tout ça n'a plus aucun sens. Vous l'avez dit, c'est une taxe sur les cotisations encaissées. C'est pas sur nos résultats, c'est sur les cotisations encaissées. C'est-à-dire que quand vous payez votre complémentaire santé, plus de 2 mois de cotisation ne sont que des taxes. Si cette taxe devait voir le jour, si elle était votée par le Parlement, c'est 7,6 milliards de taxes prélevées sur les cotisations des complémentaires santé.
Et donc
mesuré
ça,
qu'il y a 15 ans, c'était 720 millions. C'est-à-dire que ça aurait été multiplié plus que par 10 en 15 ans. Tout ça devient déraisonnable.
Alors ça veut dire que vous allez faire augmenter les contrats en 2026, le prix des le tarif des contrats ?
Et cette taxe, c'est une TVA sur la santé. Donc quand la TVA augmente, mécaniquement, c'est répercuté sur ceux qui le payent.
Alors le directeur de la Sécurité sociale, parce que c'est une grosse polémique quand même, explique qu'en fait, cette taxe, elle avait déjà été prévue en 2025, que du coup les mutuelles ont augmenté leurs tarifs en disant vous nous taxez, mais qu'en fait l'État n'a pas mis cette taxe en place et que vous n'avez bah, vous avez augmenté les tarifs et vous n'avez pas remboursé. Finalement, elle serait juste. Qui dit la vérité là-dedans ?
C'est une jolie fake news qu'a répercuté le directeur de la Sécu, je m'en détonne. Et ce n'est pas parce qu'une contre-vérité est répétée à l'encan qu'elle devient une vérité. Catherine Vautrin a parlé pour la première fois de cette taxe le 15 janvier 2025. Ça faisait bien longtemps que les cotisations des complémentaires santé avaient été fixées. Donc en aucun cas, cette taxe était prévue dans les tarifs de 2025 et on l'a combattue tout au long de l'année 2025 parce qu'on estime qu'elle est injuste et injustifiée. Et donc non, aujourd'hui, il n'y a aucune raison légitime de la valider.
Alors, Éric Chenu, vous disiez au printemps dernier que les mutuelles souhaitaient moins rembourser les lunettes et les audioprothèses, revoir à la baisse les garanties des contrats. C'est-à-dire, vous disiez, si on veut sauver le modèle social, il faut que les mutuelles soient moins généreuses. C'est moi qui le dis, mais voilà. Il me semble que c'est comme ça qu'on peut le traduire. Expliquez-nous en quoi ça aide le système si tout à coup les mutuelles remboursent moins.
Alors, l'idée, c'est pas de rembourser moins, c'est de rembourser sur ce qui est utile, sur ce qui est nécessaire. Et de se dire, et de dire à nos concitoyens qu'il y a peut-être des choses qui deviennent, là aussi, déraisonnables. Qu'on rembourse des paires de lunettes quand la vue change, c'est tout à fait normal. Qu'il y ait une forme de droit de tirage tous les deux ans, parce que c'est un des impacts du 100% santé que nous finançons à plus de 75%, hein, il faut quand même le rappeler, peut-être que c'est plus tout à fait justifié. Et donc l'idée, c'était de revenir à ce qui était les choses observées avant le 100% santé. On était plutôt sur des durations de renouvellement d'équipement à plus de 3 ans. Et donc, retrouver de la modération, de la sobriété, nous semble là aussi utile, nécessaire et absolument indispensable, que ce soit en optique, en audiologie, mais globalement sur l'ensemble des prescriptions.
Des commerces qui ont fleuri ces dernières années, c'est ça le sujet ?
On a autant d'opticiens installés en France que sur tous les États-Unis. Donc probablement qu'aujourd'hui, il y a une sursolvabilisation de ce secteur.
Bon, et vous baisseriez les tarifs des contrats si vous révisiez tout ça ?
Où ça permettra de moins les augmenter, parce que aujourd'hui la dynamique des dépenses de santé, elle est quand même de plus de 4% par an, et donc ça permettrait de redéployer ces sommes, soit pour améliorer d'autres prises en charge, soit pour minorer les augmentations.
Éric Chenu, dans le livre que vous venez de publier, enfin que vous avez publié avant l'été, Sauver le modèle de protection sociale, vous explorez tout ça, hein, les économies, les taxes. Est-ce qu'aujourd'hui, pour sauver le modèle, il faut aller chercher dans des poches qui ne sont pas ponctionnées aujourd'hui ou pas assez ? Alors, est-ce qu'il faut demander plus aux retraités, par exemple ?
Je crois pas qu'il faille demander plus aux retraités qui payent déjà beaucoup puisqu'ils n'ont pas de participation employeur pour leur contrat, que les taxes étant proportionnelles au coût de la complémentaire, ça leur coûte très cher, donc je suis pas convaincu. Moi, je préconise beaucoup plus de travailler sur la pertinence de la prescription, de lutter contre la financiarisation de notre système de santé qui nous coûte très cher.
Alors ça veut dire les fonds qui investissent les labos.
Des fonds de pension étrangers qui ont racheté nos labos, qui ont racheté des centres de radiologie, des cliniques et qui captent de la valeur avec nos cotisations sociales, fiscales, mutualisées. Nous renflouons des fonds de pension de retraités à Miami ou d'actionnaires en Australie. Je ne crois pas qu'on en ait jamais délibéré. Et puis aussi faire en sorte que l'État assume son rôle de planificateur, ce qu'il ne fait plus, pour réaménager le territoire de santé, pour qu'on évite de saupoudrer les moyens comme on le fait aujourd'hui, en redonnant de la lisibilité, de la visibilité à nos concitoyens. Et puis, si on veut responsabiliser les citoyens, et nous on le souhaite, c'est pas en les sanctionnant, mais en leur permettant de prendre conscience de ce qui est fait en leur nom, avec leur argent, leur cotisation, de leur rendre compte de ce qui est fait. 330 milliards dépensés pour le système de santé en 2024, mais on ne leur dit jamais ce qui est fait, comment c'est dépensé. Si on veut les responsabiliser, la première des choses à faire, c'est de leur rendre compte.
Éric Chenu, le président de la Mutualité française, votre livre « Sauver notre modèle de protection sociale » apparu aux éditions de l'Aube. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
On n'arrête pas l'écho. Sur France Inter.
C'est l'écho à la page avec Christian Chavagneux. Christian, vous nous conseillez d'abord ce petit livre, moins technique qu'il n'en a l'air, sur l'allègement du coût du travail.
Oui, surtout sur le bilan de l'allègement du coût du travail, toujours moins l'obsession du coût du travail ou l'impasse stratégique du capitalisme français par Clément Carbonnier. C'est à la découverte. L'économiste commence par nous rappeler d'où vient cette politique d'allègement du coût du travail, par les allègements de cotisations sociales, censés redonner de la compétitivité aux entreprises. Il commence par nous dire, bah, ça a commencé dans les années 80-90, il y a eu des motivations différentes, et puis on arrive au cœur du livre, c'est le bilan. Est-ce que ça crée des emplois? Parce que ça a été fait pour ça. Eh bien, la réponse est non, ça ne crée pas d'emplois. Plusieurs études sont mobilisées et Clément Carbonnier fait une chose que j'adore, moi, c'est qu'il va chercher des études qui disent l'inverse et qui disent oui, ça a créé de l'emploi. Il les démonte, il les décortique, il les critique et il nous dit, bah, vous voyez, finalement, même celles qui disent que ça crée de l'emploi, eh bien, ça ne marche pas. Ce que j'aime bien, moi aussi, c'est qu'on voit que les arguments de Clément Carbonnier, ils commencent à se distiller dans le débat politique. Pourquoi? Vous prenez quelqu'un comme Stéphane Carcillo, qui est franchement pas un économiste de gauche, qui nous dit on pourrait réduire les allègements de cotisations parce que ça ne crée pas d'emploi. Vraiment un beau petit bilan à lire. Et j'en profite, Alexandra, pour vous donner un deuxième livre, un deuxième conseil sur la fiscalité. Tout le monde a entendu parler de la taxe Zucman. Vous comprenez rien. Alors, c'est pas très grave parce que Gabriel Zucman vient de sortir un petit livre hier qui s'appelle « Les milliardaires ne paient pas d'impôts sur le revenu et nous allons y mettre fin ». Collection Libelle au seuil, tout petit, vous comprendrez tout.
Et Gabriel Zucman, qui était aussi l'invité, Christian, de Marion Loura. 7h50, on peut réécouter. Alors, le dernier ouvrage qui vous a enchanté?
Ah ouais, c'est carrément un coup de cœur. Ça s'appelle « Le prénom, esquisse pour une auto-histoire de l'immigration algérienne ». C'est un livre écrit par El Mouhoud, au seuil. L'économiste algérien nous raconte d'une double migration. Il est parti de son petit village de Kabylie à Alger, puis d'Alger en France. Maintenant, il maîtrise complètement les codes de la bonne bourgeoisie parisienne. C'est lui qui dit ça comme ça. Belle trajectoire, il est président d'universités prestigieuses. Et il nous raconte ses migrations, cette réussite. Surtout, ne lui dites pas que c'est un transfuge de classe, hein, parce qu'il est toujours bien ancré dans ses origines et en même temps aujourd'hui, il est à la fois un grand économiste, un agrégé et un directeur d'université. Franchement, c'est un livre à cœur ouvert, c'est à la fois attachant et intelligent, c'est mon coup de cœur.
L'écho à la page, Christian Chavagneux.